Chapitre 5. Didi découvrit Neil à l'étage de la maison dans la chambre sur jardin. Benjamin de l'équipe, Neil était connu pour sa tignasse de cheveux roux et son visage d'éternel jeune homme. La plupart des suspects le traitaient avec légèreté, comme une nouvelle recrue. Et Didi et Phil n'avaient jamais cessé d'en user à leur avantage. Depuis quelque temps, Neil avait gagné en assurance. Ces dernières années, Didi et Phil l'avaient poussé à s'affirmer, à prendre la direction des opérations. Cela n'avait pas été sans mal, étant donné que Neil passait le plus clair de son temps au QG pour superviser les autopsies de la morgue. Mais Didi aimait à penser qu'elle l'avait bien élevé. En tout cas, maintenant qu'elle n'était plus là et que Phil dirigeait l'équipe, Neil avait intérêt à tenir la dragée haute à Carol. Il lui devait au moins ça. Il leva les yeux à son arrivée. À genoux, à côté d'un grand lit double d'effet, il tenait à la main une boîte à chaussures tirée de sous le matelas. Didi fit trois pas dans la pièce étriquée et humide avant de plisser le nez. Ça sentait les draps à laver, l'eau de Cologne bon marché et la chaussette de sport. Autrement dit, la piaule de célibataire.
C'est la chambre de Devon Golding ?
On dirait bien.
Un ado attardé, grommela-t-elle.
On ne peut pas tous être comme Alex,
fit remarquer Neil, le sourcil railleur. Alex était le mari de Didi, spécialiste de la reconstitution de scènes de crime et instructeur à l'école de police. Il était aux yeux de son épouse un des représentants les plus raffinés de l'espèce. Il avait un goût irréprochable en matière d'habillement, de cuisine et, naturellement, de femme. Par ailleurs, il avait plutôt belle allure avec des chérios en bouillie collés sur la joue, ce qui lui arrivait plus souvent qu'à son tour après un petit déjeuner avec leur fils de 4 ans. Et Alex prenait un réel plaisir à s'occuper du linge. Tandis que Devon Golding...
« Tu as trouvé quelque chose ?»
demanda Didi en désignant la boîte à chaussures. « Une planque avec les trophées de ses précédentes victimes, par exemple ?» D'après notre femme fatale, qui n'avait pourtant jamais rencontré Monsieur Golding, avant ce soir, il n'en était pas à son coup d'essai et pourrait même avoir enlevé cette étudiante en août dernier.
Neil fut surpris. Stacy Summers ?
À ce qu'elle dit ?
La femme qui a cramé Devon dans son garage alors qu'elle avait encore les mains liées ?
La seule et l'unique.
Qui c'est cette fille déjà ?
Bizarrement, elle s'est montrée plus loquace sur les crimes supposés de Devon que sur le sien. Mais elle est convaincue que c'est un assassin en série et que nous devrions chercher des trophées.
Son visage me dit quelque chose. Je n'arrive pas à la situer, mais quand je l'ai aperçue en arrivant, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vue quelque part.
À Quantico ? Suggéra Didi.
Neil y avait récemment suivi une formation et saurait expliquer que cette femme s'y connaisse en criminologie.
Mais Neil secouait la tête. Je ne crois pas. N'empêche...
Tu avais déjà entendu parler de cette histoire de feu chimique ?
Elle posait la question parce que Neil était le plus calé de son équipe en sciences. De son ancienne équipe.
Oui, ça fait partie des trucs qu'on t'apprend pour le cas où tu serais perdu en pleine cambrousse, tu vois. Mais je dois reconnaître que si je me réveillais enfermé dans un garage avec les mains liées, pas sûr que ce serait la première idée qui me traverserait l'esprit.
Ça dénote des capacités d'autodéfense au-dessus de la moyenne.
Il y a quand même un truc bizarre, continua Neil en se relevant. Ça n'aurait pas dû tuer Golding. Le neutraliser, l'amocher, le traumatiser, certainement. Mais une brûlure localisée à relativement faible température, tu serais étonné de voir tout ce que le corps humain peut endurer sans passer la main gauche. J'ai vu des victimes extraites de carcasses embrasées avec les deux tiers de la peau grillée et qui, avec suffisamment de temps et de soins, s'en sortaient quand même.
Didi fut parcourue d'un frisson. Elle n'aimait pas les brûlures. Un jour, on l'avait envoyé interroger un rescapé dans une unité pour grand brûlé. On était littéralement en train de racler la peau morte de son dos. À entendre ses hurlements, elle avait cru le type à l'article de la mort. Mais on lui avait expliqué que ce traitement était censé le guérir. On ne pouvait pas assommer tout le monde à coups de morphine, avait aimablement expliqué l'infirmière en lui décapant le dos de plus belle.
Bon. Il est possible que Devon ait inhalé de l'air chaud et de la fumée, continuait Neil, que ça lui ait brûlé l'œsophage, et que ça ait déclenché un édème qui aurait obstrué les voies respiratoires. Mais ce que décrit le témoin semble plus soudain. Ça me fait penser qu'il a peut-être eu un choc qui aurait provoqué un arrêt cardiaque.
« D'accord, » dit Didi. Elle ne comprenait pas encore très bien où il voulait en venir, mais Neil avait été ambulancier avant d'entrer dans la police. Il voyait souvent des choses qui leur échappaient, à Phil et à elle.
Cela dit, le mort était un jeune homme manifestement sportif, culturiste, on dirait.
« Tu as réussi à voir ça ?»
demanda Didi avec incrédulité en repensant au cadavre recroquevillé et calciné. « Pas toi ?»«
Laisse tomber !»
D'où l'idée suivante. On sait que les bodybuilders prennent des anabolisants, ce qui peut entraîner toute une série de symptômes, notamment une hypertension artérielle et une hypertrophie cardiaque.
« Et une atrophie des testicules, » ajouta Didi. « Pour l'hypertension, tu me l'apprends, mais sur l'atrophie des testicules, je suis relativement sûre de moi. »
Neil leva les yeux au ciel. « On va laisser au légiste le soin de mesurer ça. Mais vu ce qu'il y a là-dedans, on a probablement tous les deux raison. » Il secoua la boîte à chaussures et Didi entendit des flacons de verre s'entrechoquer. Aucun doute que Devon Golding s'est envoyé des stéroïdes. Je ne saurais pas te dire pendant combien de temps, mais même une utilisation de courte durée peut lui avoir abîmé le cœur et avoir contribué à son décès. Et les accès de colère associés aux stéroïdes, réfléchissait Didi. J'ai toujours pensé que ça consistait à piquer des crises de rage. Mais est-ce que ça aurait pu le conduire à enlever une fille dans un bar?
Là, ça sort de mes compétences.
En théorie, la consommation prolongée de stéroïdes anabolisants provoque une baisse de la libido. Donc on se demande même pourquoi il aurait eu envie de kidnapper une fille.
Céder à ses pulsions les plus sordides était la seule chose qui l'excitait encore? La violence comme ultime aphrodisiaque?
Toutes les hypothèses sont permises, répondit Neil. Vu cette boîte, je crois qu'on peut estimer à coup sûr que Devon Golding prenait des stéroïdes et que ça a sans doute joué un rôle dans sa mort. Quant aux preuves de l'existence d'autres crimes, d'autres victimes, il n'y a qu'une seule manière de le découvrir.
Neil reposa la boîte, se dirigea vers la commode étroite collée au mur et entreprit d'en ouvrir les tiroirs.
Didi le laissa faire. Après tout, elle était en restriction d'aptitude.
Que Neil mette donc la chambre sans dessus-dessous. Elle s'approcha du lit et examina le contenu de la boîte à chaussures. En plus de divers flacons aux étiquettes colorées, il s'y trouvait de nombreux sacs de cachets dépourvus d'inscriptions. Compléments, hormones, Dieu seul le savait. L'abus de stéroïdes avait-il pu faire basculer Golding dans le crime? La seule rescapée affirmait qu'elle ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Qu'elle se trouvait dans le bar avec un autre jusqu'au moment où il avait assommé le prétendant numéro 1 pour la kidnapper.
Un comportement non seulement primitif, mais aussi impulsif, raisonnait Didi. En règle générale, les prédateurs en série épient leurs victimes, planifient l'enlèvement. Au contraire, kidnapper une fille comme ça à la sortie d'un bar.
Tiens, tiens ! Neil interrompit le cours de ses pensées. Ayant délaissé les tiroirs, il se trouvait de nouveau à quatre pattes et tâtait sous le meuble avec sa main gantée.
Tu trouves quelque chose ?
Ça se pourrait.
Il lui fallut donner plusieurs secousses, mais il retira une grande enveloppe en kraft jaune qui était scotchée sous la commode. Il l'agita. Et Didi vit plusieurs petits objets de forme rectangulaire se déplacer contre la paroi en papier. Neil porta l'enveloppe jusqu'au lit. Le rabat n'était pas collé, mais maintenu par des trombones. Il les défit, ouvrit l'enveloppe et en renversa le contenu sur le lit. Didi découvrit deux documents de la taille d'une carte de crédit, sauf qu'il ne s'agissait pas de carte de crédit.
« Des permis de conduire », constata Neil.
Deux femmes. Christy Kilker. Nathalie Draga.
Mais pas Stacy Summers?
Pas Stacy Summers. Cela dit, reprit Neil en prenant un des permis pour lui montrer une trace de doigt ensanglantée, je crois que notre amie Jeannette la Terreur était peut-être dans le vrai en fin de compte.
Ils retournèrent toute la pièce. Didi commença par le lit. Neil termina la commode. Ils agissaient avec méthode et efficacité, en collègues qui n'en étaient pas à leur première fouille commune. Par la suite,
Les techniciens de scène de crime viendraient avec de la poudre à empreintes, du luminol et différentes sources de lumière. Ils relèveraient les empreintes digitales, les traces de fluide corporel et, avec un peu de chance, de minuscules mèches de cheveux, des fibres. En attendant, Didi et Neil cherchaient les indices visibles à l'œil nu. Des vêtements de femme, des bijoux, tout ce qui permettrait d'établir un lien avec d'autres victimes. Des fiches de paye, des notes de bar qui leur indiqueraient d'autres terrains de chasse, voire, soyons fous, le journal de bord d'un assassin. On ne sait jamais quand la chance peut sourire. Didi eut besoin d'aide pour soulever le matelas. Son épaule la lançait déjà. Son bras gauche était trop faible. Sans un mot, Neil la rejoignit. Ensemble, ils le soulevèrent. Puis il retourna dans son coin et elle reprit sa fouille. Elle savait gré à son coéquipier, à son ancien coéquipier, d'avoir gardé le silence, de n'avoir fait aucun commentaire sur la sueur qui commençait à luire sur son front, sur son souffle déjà court. Les superviseurs n'étaient pas exactement censés fouiller les scènes de crime, se rappela Didi. Demander des rapports, parcourir toutes les notes, oui, mais mettre la main à la pâte, non. Elle était censée rester bien au chaud au QG, où son inaptitude à porter une arme ne mettait personne en danger. Elle examina jusqu'au moindre centimètre carré de l'envers du matelas, puis s'attaqua au sommier à ressort. Ce soir, il faudrait qu'elle mette de la glace sur son épaule, sous le regard lourd de sous-entendu d'Alex. Mais on ne la changerait pas. Il le savait. Neil le savait. Il n'y avait que la hiérarchie qu'elle était déterminée à duper. J'ai quelque chose. Elle sentait un truc. Un bloc dur, près du coin supérieur droit. De près, elle vit que la couture entre le solide coutil latéral et le tissu plus fin du dessus était déchirée. Elle explora l'intérieur du sommier de sa main gantée et la trouva. Coincée entre deux ressorts. Une boîte? Attends. Oh, ça glisse ce machin. Voilà, je la tiens. Elle extirpa la boîte métallique avec précaution. Tout son bras gauche tremblait de fatigue. Il fallait faire plus de musculation, songea-t-elle vaguement. Plus de musculation, plus de sport, n'importe quoi pour ne pas se sentir aussi faible, pour ne pas être aussi faible devant témoin. Mais cette fois encore, Neil ne fit aucun commentaire. Il prit simplement le petit coffre de ses mains tremblantes et l'emporta vers le bureau d'angle, où ils auraient plus de lumière. Le coffret était d'un modèle assez banal, vert de gris. Une quinzaine de centimètres de long, 6 de haut, prévu pour conserver quelques souvenirs précieux ou personnels, mais pas grand-chose d'autre. « Des photos », annonça Neil. « De quoi ?» Didi se pencha sur la pile pour mieux les observer sous la lampe de bureau. « Une femme aux cheveux noirs. Encore et encore. » Neil passa le tas en revue. Sur toutes les photos, la même femme, en train de se promener dans un parc. De prendre un café, de lire un livre, de rire avec quelqu'un qui était hors cadre. Elle avait l'air d'avoir la petite trentaine, et elle était belle dans le genre sensuel et ténébreuse. Une ex, peut-être. Planquée dans une boîte à l'intérieur du sommier, contesta Didi. Ça m'étonnerait. Elle ressemble à quelqu'un que tu connais? Stacy Summers? Attends, non. Stacy Summers est petite et blonde, alors que cette fille... Ce n'est pas... « Stacy Summers », confirma Neil. « Et notre victime d'aujourd'hui ? La dernière fois que je l'ai vue, elle était couverte d'ordures. Et je ne me souviens pas de la couleur de ses cheveux. Blonde aussi, les yeux gris clairs. Ce n'est pas elle non plus. » « Didi », reprit Neil d'une voix égale. Il venait d'arriver au dernier cliché. Tous deux se figèrent. Toujours la même femme. Sauf qu'elle ne souriait plus. Elle ne riait plus. Ses yeux noirs étaient immenses. La détresse se lisait sur son visage blême. Elle regardait droit vers l'objectif. Et elle avait l'air. À présent, c'était la main de Neil qui tremblait légèrement. Et Didi, qui ne disait plus rien. Neil reposa les photos et revint avec les deux permis trouvés sous la commode. « Nathalie Draga », conclut-il. Il posa la pièce d'identité à côté de la photo. Et quand tous les deux eurent comparé l'une avec l'autre, ils hochèrent la tête. 31 ans, domicilié à Chelsea. Mais Pas de photo de la deuxième victime?
Non, juste de Nathalie.
Lien personnel, murmura Didi. Il tenait à elle, d'où le nombre d'images.
Il la vénérait de loin, supposa Neil.
Peut-être même qu'il était sorti avec elle. Mais ça s'est mal terminé. Peut-être qu'elle l'a rejeté et il s'est retourné contre elle.
Et la deuxième victime, Christy. Et celle d'en bas.
Ils avaient vu tout le contenu de la boîte. Il n'y avait plus de photos. Peut-être que ça lui a plu, raisonna Didi à voix haute. La première fois, il avait un compte personnel à régler. La deuxième et la troisième fois, c'était pour le plaisir.
Il n'y a aucun moyen de savoir où ces photos ont été prises. Le cadrage est trop serré, ça manque d'arrière-plan.
Notre rescapé affirme qu'il y a du sang dans le garage.
J'ai senti comme une odeur, confirma Neil.
Demande aux techniciens de prélever des échantillons. Et envoie d'autres agents dans le bar où travaillait Devon Golding, avec des photos des trois victimes connues, pour voir s'ils chassaient en terrain familier. Prenez aussi une photo de Stacy Summers, histoire de savoir si elle fréquentait ce bar.
La dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans un autre établissement. Le Burchies, sur Lexington Avenue.
Je sais. Mais si jamais il lui arrivait aussi d'aller dans le bar de Golding, la malheureuse n'a quand même pas pu croiser des milliards de psychopathes. Didi se redressa, puis grimaça. Le mouvement avait tiré sur son épaule, sur son dos de plus en plus douloureux.
« Tu devrais rentrer chez toi, » dit Neil. « C'est notre boulot de nous occuper de tout ça. Le tien, c'est de nous expliquer comment on aurait pu mieux le faire. »
Mais Didi ne l'écoutait pas. Elle réfléchissait. Au garage, à Devon Golding, à sa dernière victime, qu'il avait battue à son propre jeu et qui attendait maintenant à l'arrière d'une voiture de police. Une blonde qui avait des relations au FBI et qui savait comment déclencher un feu chimique. Une femme que Neil avait cru reconnaître.
Elle aurait dû savoir, pensa-t-elle.
Elle avait un vague souvenir. On frappa à la porte derrière elle. Carole Manley, la petite nouvelle, passa une tête dans la chambre.
« Didi, l'agent du FBI que notre victime a appelé, il est là. »